Je vous en prie, nous allons commencer la séance. J'ai l'honneur de vous présenter faux japonais aux multiples talents. Ceux et celles qui ont assisté à ce duel entre deux samouraïs savent de quoi je vous parlais. François Bizet n'a jamais enseigné en France, mais 10 ans dans des universités turques à Ankara et à Istanbul, et 6 ans dans plusieurs universités de Tokyo. Il a publié sa thèse il y a 2 ans, qui s'intitulait « Une communication sans échange, Georges Bataille critique de Genet » aux éditions Droz. Il vient d'achever un essai sur le théâtre de marionnettes japonais. Je vais lui laisser présenter l'intitulé de sa communication comme il me l'a demandé.
Oui. Merci Simon. Je ne veux pas commencer évidemment sans remercier la brigade légère des organisateurs et les auditeurs d'aujourd'hui. Et je vais essayer de me glisser dans le vortex vertigineux qui m'a précédé. Et comme tout revient autrement, toujours, je vais annoncer l'autre titre de ma communication qui a changé, crise sans sortie, apocalypse sans royaume, fin sans fin. Nous le savons depuis Robert Antelme, pour qui le camp qu'il venait de voir s'ouvrir avait déjà basculé au moment d'en fixer l'expérience dans l'inimaginable. Nous le savons par les témoignages de tous les survivants des désastres du XXe siècle. Et ce savoir est encore confirmé par l'historien lorsqu'il met un point d'honneur à se défier des vérités révélées. Pour savoir, il faut s'imaginer. Cette phrase, je l'extrais d'un livre que Georges Didi Huberman a consacré à 4 photographies prises clandestinement dans le camp d'Auschwitz et qu'il a intitulé « Images malgré tout ». Je voudrais qu'elle serve d'exergue à la réflexion qui va suivre et qu'une toute autre image a suscité. Celle, dans un opus signé Lutz Wassmann, d'une petite fille calcinée, au corps étrangement animal, projetée par ce qui ne pouvait être qu'une embrasure, hors du lieu de son martyre, dont nous ne saurons rien, sinon qu'il brûle sans se consumer. Le texte dit « un brasier dont l'image n'apparaissait pas ». Le post-exotisme est hanté par les images. Il y a 3 ans, à Montréal, Antoine Volodine a proposé de ces images sans parole un inventaire filmique. L'apparition d'Avec les moines soldats vient s'ajouter à ces images errantes, extraites de l'enchaînement cinétique où nous les croyons fondues. Elle en a le rayonnement, cette phosphorescence sourde qui constitue fondamentalement l'image, si l'on accepte d'y reconnaître, comme le fait Deleuze commentant Bergson, le heurt intime de la matière et de la lumière. C'est notre conscience qu'éclaire les feux de son lointain foyer. Nous ne sommes que l'écran noir sur lequel les images se révèlent ou se déchirent, car il existe aussi une négativité des images. Ainsi, l'apparition nocturne de la créature hybride, aux gestes désordonnés, possède-t-elle certains des attributs de l'image que Didi Huberman en a reformulé la définition. Déchirure dans le tissu de la représentation, où travaille une efficacité sombre, celle de l'informe, et de son devenir forme, mouvement anadiomène de surgissement et d'engloutissement, et enfin, et surtout, comme le savait déjà Samuel Beckett, mais peut-être aussi Homère, déploiement d'un temps autre qui conjure l'immobilité native. Si l'image du Tongfong Hotel n'est pas un territoire de l'action, je cite, et Guillaume Asselin n'a pas cessé de le rappeler, elle est néanmoins étendue, profondeur, durée. L'hôtel de Nuyagayan est au cœur d'un double déphasage temporel. Ce que l'image de l'araignée quasi-humaine vient inquiéter, par l'horreur apocalyptique qu'elle suggère, c'est avant tout un flux, l'écoulement rassurant du temps. La vision attendue par l'agent Brown est d'abord censée, selon Boyan Cusco qui l'a eue en rêve, s'être détachée d'un futur extrêmement éloigné après l'avenir, et avoir été dépêché pour établir un lien dans le présent diégétique, un présent ruiné, en sursis, attendant la fin. D'autre part, l'image apparaît 2 fois, dans les 2e et 6e entrevoûtes d'un ensemble de 7, c'est-à-dire en deux positions chronologiquement stratégiques, dans deux récits portant le même titre, Crise au Tongfong Hotel, déroulant le même scénario et la même progression narrative. Il n'y a pas jusqu'au texte lui-même qui ne soit parfois identique. Ce n'est bien sûr pas la première fois que le temps du raconté subit un ébranlement de ce genre. De tous les phénomènes de condensation itérative qui marquent, pour Ricoeur, une littérature du temps perdu et retrouvé, aux innombrables phénomènes de réversibilité ou de dispersion répétitive, la linéarité du récit n'a cessé d'être traversée, minée par des mouvements divers, parfois violents. Et je pense particulièrement aux autogreffes textuels dont Ricardou attendait qu'elles sabotent le continuum narratif. Aujourd'hui encore, pour ce qui concerne le chant post-exotique, Lionel Ruffel relève une surdétermination de la logique iconique, je cite, par rapport à la logique discursive. On peut sans hésiter avancer que Crise au Tongfong Hotel, ainsi que l'ensemble du recueil où s'opère sa duplication, viennent confirmer la primauté de ce dispositif. Un tel traitement de l'image, quand on connaît l'importance du témoignage visuel dans l'écriture apocalyptique, sa reprise d'une si nouvelle espèce, d'une nouvelle ampleur aussi en regard de certaines réalisations de l'après-guerre, m'ont ainsi paru pouvoir justifier une communication. Il m'a semblé par ailleurs que l'examen de la réécriture d'une séquence complète, quand celle-ci est profondément imprégnée d'espoir eschatologique, pourrait nous éclairer sur le caractère post-apocalyptique souvent attribué à la fonction volodinienne, à la fiction volodinienne. Dans cette double perspective, la pensée de l'image de Walter Benjamin, élaborée au cours d'une longue méditation sur l'histoire et la catastrophe, nous sera, je l'espère, d'un précieux secours. J'ai voulu en articuler la portée révolutionnaire aux concepts non moins radicaux que développa, après le désastre que l'auteur du Livre des Passages avait pressenti, mais dont il refusa d'être le témoin, un autre philosophe, exilé, hors institution, penseur de l'ère post-atomique, Günther Anders, dont il avait été question aussi. Günther Anders, qui, dès après la mort de Benjamin, a diffusé sa pensée. Cette double référence nous aidera-t-elle à saisir la spécificité de l'image telle qu'elle prolifère dans la production post-exotique de Méditation de l'insane, jusque dans la troisième entrevoûte de ce livre, avec les moines soldats, où s'affirme le lien fondamental de son invocation désespérée et de, je cite, l'espoir de l'histoire. Mais ici, un peu abrupte, une parenthèse. N'y a-t-il pas une curieuse similitude entre, d'une part, l'entêtement de la physique moderne à remonter jusqu'à l'instant zéro de l'univers, à cette phase initiale qu'on appelle depuis 1950 le Big Bang, et d'autre part une certaine obsession des écrivains à décrire la fin de tout. Aux dernières nouvelles, on est capable de voir jusqu'à 10 puissance moins 43 secondes after the Bang. Au-delà de ce temps de Planck, la théorie ne peut rien dire, enfin, pas encore, la théorie des cordes n'a peut-être pas dit son dernier mot. Côté littérature, où en est-on? À quel stade symétrique de l'agonie? Écoutons avec les moines soldats. Personne ne peut survivre indéfiniment. Il y a une ultime étape, c'est l'isolateur. Et ensuite, on s'éloigne. On s'éloigne, autrement dit, on continue. Nous serions donc, d'un côté du temps comme de l'autre, empêtrés, englués dans le paradoxe de Zénon, qui dit qu'une pierre ne peut atteindre l'arbre contre lequel elle a été lancée qu'au bout d'un temps infini, c'est-à-dire jamais. Une seule chose est sûre, c'est qu'en ces deux extrémités du temps, le temps n'est plus régi par les lois physiques que nous lui connaissons dans les phases intermédiaires. Il n'est plus orienté, il est devenu immesurable. Du même personnage des moines soldats, il est dit ceci. Il avait perdu le sens du temps. Dans quel sens avons-nous, hommes de la charnière des deux millénaires et de la fin de l'histoire, perdu le sens du temps? Difficile, impossible même, on s'en rend bien compte, de refermer la parenthèse. Je continue donc. De quelle courbure de l'espace-temps post-exotique nous parvient par deux fois Crise au Tongfong Hotel? Le titre que partagent les entrevues 2 et 6 est répertorié dans le post-exotisme dit leçon 11 en tant qu'ouvrage séparé dont l'auteur est certain Turkan Maradjvili, qu'il se retrouve inclus 10 ans plus tard dans un ouvrage de Lutz Bassmann et conforme au rituel post-exotique de l'hommage, cette réincarnation, je cite, dans un corps littéraire fraternel. Un texte est fait pour être repris, ruminé, remâché, la répétition étant une des lois fondamentales du post-exotisme énoncée dans le métatexte. Et puisqu'en l'occurrence Chris Otonkfong-Otel est l'objet d'un double hommage, nous serions en droit d'induire une double origine octoriale. Or, notre trouble vient justement de ce que les deux récits sont placés sous l'autorité tutélaire d'un seul nom, Lutz Bassmann. La répétition constitue donc ici un cas limite d'autotextualité. Chacune des deux entrevoutes est divisée en 7 chapitres, découpées d'une manière identique et comprenant les mêmes péripéties, plus ou moins circonstanciées, auxquelles est adjoint un épilogue, ce qui les apparente au genre de la Chagga. Parenté lointaine, cependant, car Chris Otonkfong-Otel n'offre pas les 7 facettes d'un même événement que les canons du genre exigent. Le principe de stagnation narrative, je cite le texte, voire de répétition, n'agit pas à l'intérieur d'une seule séquence, mais au-delà, dans une dimension élargie, où la série tout entière devient l'objet de la reprise. S'agit-il là d'une simple transgression générique, ou bien sommes-nous, comme je le crois, en train d'assister, dans le temps désorienté de notre lecture, à la mutation d'un genre ? Tout a été dit par Audrey Camus sur la question, mais j'ajouterai pour ce cas précis, d'abord que la bibliographie du métatexte désigne Chris Otonkfong-Otel comme un romance, pas une chagga, et d'autre part que, avec les moines soldats, le nouvel opus qui assure moins sa perpétuation que son devenir est un ensemble d'entrevoûtes. En changeant de lieu énonciatif, le texte change aussi de forme et d'appellation. Il n'est pas dans mon intention de relancer le débat sur la validité des outils narratologiques, mais il me semble qu'en l'occurrence, pour ce qui est de la question de la fréquence, ces outils nous seront de peu d'utilité. Le mode répétitif, on s'en souvient tel que Genette définit, se liant soit à un jeu de variations stylistiques, soit à celui des points de vue. Dans Les Moines Soldats, la répétition ne sert ni un changement de focalisation, ni une réorchestration. Au contraire, tout est fait, tonalité, couleur, tempo, malgré le développement de certains thèmes, pour donner l'impression d'une reprise d'un seul et même point de vue, celui d'un narrateur hétérodiégétique que nous n'avons aucun moyen de connaître autrement que par cette seule intervention, discrète, mais symptomatique, répétée d'une entrevoûte à l'autre, « je l'ai dit déjà ». Le doublon d'énormes dimensions d'un texte dont nous venons de lire le premier état, voilà comment on pourrait qualifier, à première vue, bien sûr, la reprise de Chris Otonkfong-Otel. Or, il va sans dire que la présence à quelques dizaines de pages de distance de la première, d'une version seconde, place le lecteur dans une position ambivalente, car s'il prend conscience peu à peu du procédé et finit, intrigué, par accepter de relire l'aventure de Brown, dont il garde pourtant en mémoire l'empreinte toute fraîche, s'il finit même par jouir qu'on lui re-raconte l'histoire à la manière des enfants qui attendent de soir en soir leur conte préféré, ou bien des Proustiens fous de pastiche dévorant les différentes versions de l'affaire Le Moine, ou bien encore des lecteurs des 4 évangiles, sans compter les apocryphes, l'appétit de jouissance de ce même lecteur, sa relation éminemment ludique au texte, lui impose aussi d'espérer de cette sorte de remake un écart, même infime, quelques différences que son désir de sens puisse aussitôt transformer en signe positif, indice et bientôt preuve de la germination irrépressible d'une parole qui refuse de végéter, qui ne peut que progresser, marquant là son hostilité viscérale envers toute forme de psittacisme. À quoi servirait de raconter exactement 2 fois la même chose ? Comme on pouvait le prévoir, l'état second ne manque pas de jouer d'une telle attente, à tel point que nous sommes amenés à le considérer également comme un nouvel essai, ayant assimilé les leçons du premier, et pour ainsi dire, si étrange que cela paraisse, comme une suite. C'est ainsi que Brown, terrassé par un sentiment d'échec à la fin de la première tentative de contact avec la fillette araignée, semble après la suivante beaucoup moins insatisfait. Et la raison en est qu'il a réussi cette fois à lui donner un nom, et ainsi à l'affilier à l'espèce humaine dont elle doit prendre en charge l'héritage. Mais il y a davantage, et il est évident que l'idée de nom a été soufflée à Brown par Cusco lui-même, Dovchenko, un nom d'épave. L'effet de succession est donc indéniable, et cela suffirait, je crois, à distinguer la répétition volodinienne de celle de Robe Grillée, en tout cas dans la jalousie, qui ne touche que l'acte narratif lui-même. Et cependant, cet effet de succession est comme écrasé, presque annulé par la masse textuelle mise en œuvre, 49 pages contre 34, j'ai compté, remise en branle pour y parvenir, et surtout par l'identité désespérante de la conclusion, car rien ne nous assure du succès de l'entreprise. Bien au contraire, le lecteur est invité à en pressentir le ratage. Je mentionnerai d'abord le climat général de fatalité, condensé dans ce moment où Brown et Cusco observent l'agonie d'un animal mutant. Je cite « Pattes, antennes et pinces s'agitaient dans le désordre et comme à contre-cœur puisque les jeux étaient faits. » Autre indice, les lectures de Brown. En attendant l'heure de sa mission, il parcourt un recueil de Chagas intitulé « Lettres aux moines de la guerre ». Dans la version seconde, il est question d'un autre ouvrage, 20 ans après. Fi donc de l'ordre feuilletonesque. Ce qui subsistait encore si faiblement, illusoirement, de durée conquérante, de temps en expansion, se voit emporté avec une certaine désinvolture, au détriment d'Alexandre Dumas. Cependant, ces quelques pressentiments ne sont rien comparés à un fait de fiction que le lecteur de Lutz Bassmann est en droit d'ignorer, puisqu'il n'appartient pas à la diégèse, mais que tout sympathisant aura gardé en mémoire, car il appartient au post-exotisme, dans sa dimension de réseau fictionnel, à ce qu'on pourrait presque appeler une diégèse inter-romanesque, et je n'ose pas dire balzacienne. Ce qu'il y aura après l'avenir a en effet déjà été prédit, bien avant la parution des Moines soldats, dans « Outrage amical », dont il a déjà été question. Pièce radiophonique, où une certaine Natacha Dovchenko a été exécutée après une parodie de procès pour avoir émis des doutes sur l'appartenance des créatures couvertes de poils dont elle fait partie à l'espèce humaine disparue depuis des dizaines de millions d'années. La boucle, dans un hallucinant effet de transfictionnalité, est donc bouclée. C'est alors tout le sens de ce redéploiement somptuaire qui, pour nous, fait question s'il doit aboutir à une nuance aussi mince et somme toute insignifiante au regard de la mission de Brown qu'il faut pourtant bien, à ce point de l'analyse, qualifier de messianique. L'effet de succession d'une entrevoûte à l'autre est indéniable, comme est indéniable la causalité qui les relie à Outrage amical. Natacha Dovchenko, nous le verrons bientôt, s'est bien souvenue de Brown. Mais le caractère dérisoire du progrès obtenu ne peut en rien ébranler l'absolu de la condamnation et de la finitude à l'intérieur desquels l'homme se débat en vain. Les jeux sont faits. Natacha Dovchenko est diégétiquement morte et la civilisation humaniste qui l'a assassinée, à l'extrémité d'un chronotope d'ores et déjà verrouillé, a hérité de l'ancienne humanité sa cruauté et son cynisme, et sans doute aussi ses pulsions génocidaires. La sixième entrevoûte vient bien après la deuxième, dans le temps de notre lecture, mais le temps entre les deux tentatives de Brown s'est écoulé à vide. Et que penser des dizaines de millions d'années qui, dans quelque archive sonore, le séparent du destin de Natacha Dovchenko? Quelque chose s'est brisé, à l'intérieur même de la brisure. Le démontage temporel et son corollaire, le montage, tel qu'Eisenstein dès 1923, mais on pourrait aussi penser à Alexandre Dovchenko, ainsi que Walter Benjamin, tout autant les années 1930, les ont théorisés et pratiqués, ces deux ressorts d'une dynamique nouvelle, matérialiste de l'histoire, se sont distendus. Ils ne promettent plus rien. Certes, l'image post-exotique possède encore certains des attributs de l'image, crucial dans le livre des passages et jusqu'au dernier texte de Benjamin sur le concept d'histoire, il lui manque pourtant l'essentiel, sa valeur rédemptrice. Objet d'un investissement narratif constant et d'une ferveur désespérée, on a l'espoir de l'image, on attend l'image, ne cesse de répéter la plongée. L'image a été dévastée. Son surgissement intempestif ne se double d'espoir messianique qu'afin de mieux lui tordre le cou. À la fin, il ne reste de tout cela qu'un goût de cendre. Reprenons donc, si j'ose dire, depuis le début. De quelle courbure de l'imaginaire et de la mémoire, de quel carrefour du temps historique et du temps fictif nous arrive la fillette brûlée vive de Chris au Tongfong Hotel? De quelle imagerie d'apocalypse que signale son apparence monstrueuse? De quelle vision de désastre futur, nourrie des souvenirs de ceux de notre histoire récente, le feu d'Auschwitz et celui de Hiroshima? Je retiendrai de l'image qui troue par deux fois la nuit de Brown sa violence explosive et l'idée d'une plasticité du temps. Catherine Malabou a rappelé les deux sens fondamentaux de ce mot. Capacité à recevoir ou à donner la forme, mais aussi puissance d'anéantissement de la forme. Ce que voit Brown médusé, c'est d'abord une torsion, un froissement brutal de l'espace qui indique pour nous une pliure dans la temporalité. Le bâtiment implose, plutôt qu'il n'explose, la libération d'énergie se faisant comme dans une bombe H vers l'intérieur. L'image d'après l'avenir, tout en montrant, se maintient en retrait, se déchire sur d'indescriptibles fours, et par sa répétition vient déchirer le présent déjà très paradoxal de notre lecture. N'y aurait-il plus de secours, comme voulait encore le croire Benjamin, dans les images du passé, qu'il faille recourir à celle du futur? On sait que dans sa refonte critique de l'histoire, Benjamin attribuait à l'image ses mêmes vertus de désintégration et de réagencement. Le temps humain ne peut se contenter de s'ordonner selon le pur continuum d'une histoire universelle, qui pour Benjamin était la marque même de la catastrophe. La continuité doit être dynamitée, il parle alors non pas de plastique, mais d'écrasite, de manière à libérer à nouveau les puissances d'avenir que les faits passés continuent de promettre, mais qu'une réécriture cumulative de l'histoire a mutilé et enterré. Et quand je dis cette mouche était...
Ouais.
Il faut l'exterminer, comme dirait Beckett.
Oui. Les chauves-souris également.
Et quand je parle de l'histoire, c'est évidemment de l'histoire des vainqueurs qu'il s'agit, et Philippe Roussin a bien rappelé que le pouvoir, c'est de reconstituer le passé à ses propres fins. Je cite donc le livre des passages. Une image est ce en quoi l'autrefois rencontre le maintenant, dans un éclair, pour former une constellation. En d'autres termes, l'image est la dialectique à l'arrêt. Car tandis que la relation du présent avec le passé est purement temporelle, continue, la relation de l'autrefois avec le maintenant est dialectique. Ce n'est pas quelque chose qui se déroule, mais une image saccadée. Que l'image onirique de Natasha Dovchenko vienne d'un très lointain futur n'y changerait donc rien. Comme chez Benjamin, l'image post-exotique est un projectile dont la fonction est de frapper une conscience qui, de son côté, doit se sentir visée par lui. Le retour de l'image doit assurer pour Brown un événement de cet ordre. Ce qui s'opère alors, à la faveur de cette intrusion de l'hétérogène, c'est une recomposition moléculaire des forces. Et en effet, quelque chose a lieu, un contact. Si minime soit-il, si dérisoire, une parole, une couverture, ce contact fournit, me semble-t-il, la signification profonde de l'image, de son attente et de sa promesse, du moins. Rien d'anodin donc à ce que la seconde tentative de Brown se conclue sur cette pensée, Natasha Dovchenko, petite sœur. Brown est touché, et il y a dans cette compassion envers l'animal, comme le suggère ailleurs Tiphaine Samoyeau, une possible repolitisation du langage. D'autre part, le don du nom arrache la créature à l'informe, à l'anonymat de sa condition de victime, et l'élan fraternel l'intègre dans une communauté de destin, celle des laissés pour compte, éternel résidu ou épave de l'histoire. Le chiffonnier, figure post-exotique s'il en est, et Anne Roche nous le rappelle, arpentait déjà les passages et la pensée de Benjamin. Le heurt, occasionné dans et pendant l'image, et donc fondamentalement politique. Et c'est bien en cela que résidait la révolution copernicienne voulue par Benjamin. La politique prime désormais sur l'histoire, je cite. La ruse volodinienne, la malice, dirait Didier Huberman, consisterait-elle à donner une ampleur nouvelle, en puisant aux sources mêmes du post-exotisme, la présence du futur, à cette plasticité grâce à quoi tout événement du passé peut être perçu dans son actualité, dans sa puissance révolutionnaire. Ce n'est pas impensable, car pourvu qu'on prenne la peine de suivre Natacha Dovchenko jusque dans la diégèse dont elle a été momentanément extirpée, on comprendra que sa rencontre avec Brown n'est pas sans conséquence sur son destin politique, sur sa capacité subversive de remise en question des dogmes. Natacha Dovchenko a été touchée, elle aussi. Et il ne fait guère de doute que la thèse qu'elle défend est inspirée par la connaissance confuse qu'elle a de Brown, au moment même où il essaie de lui transmettre ses valeurs humaines dont elle est liée, héroïquement, la plus mortifère, la recherche inflexible de la vérité. Voici ce qu'elle dit. « Je crois que nous descendons des araignées. » C'est ce qu'elle dit lors de son procès. 7 ans avant la publication des Moines soldats, le dernier cri de l'archéologue marque à la fois l'apothéose de la mission de Brown et son désastreux épilogue. Natacha Dovchenko est exécutée au nom d'attributs de l'espèce qu'aucun agent de l'organisation n'aurait accepté de transmettre, mais qui se trouve déjà en position de force et gros de menaces autodestructrices. L'avenir après l'avenir n'aurait-il donc aucun avenir? Et pourquoi en serait-il privé? La réponse est donnée incidemment par les juges. N'importe quelle espèce pourrait être humaine. La ruse était donc à double détente et le piège se referme. Impossible d'aller plus loin, et je reprends ici une formule de Dominique Viard, dans la téléologie dystopique. La jetée de Chris Marker en deviendrait presque une aimable utopie. L'effet œuvre est donc d'abord un effet de clôture. Le temps post-exotique est sans dehors. L'impérissable horizon d'attente du lecteur, son espoir de salut ne peuvent être que ravalés. L'image a été vidée de sa puissance de transformation, elle n'est plus ouverte sur le possible. Nous sommes loin ici d'une dynamique de l'image, fulgurante et syncopée, de cet instant toujours bondissant, je cite Deleuze de l'image mouvement, que certains cinéastes et philosophes eurent un temps en partage. L'esprit, soudain, se heurte à une limite, à l'intérieur de laquelle il ne peut que refluer sur lui-même. « Pour finir encore », dirait Beckett. L'œuvre de Volodin s'inscrirait donc dans une constellation péri- ou post-beckettienne d'œuvres travaillées par l'extinction de la parole et de l'espèce humaine, œuvre de la fin, mais d'une fin toujours à venir, jamais totalement consommée. Une telle hypothèse ne peut être retenue qu'à condition de distinguer la production post-exotique de ce qu'on a pu appeler une littérature de l'épuisement. Épuisement lié, pour Dominique Rabaté, à une érosion du désir d'écouter des histoires ou d'en lire, et pour le Deleuze de l'épuiser, cette fois, à l'exténuation des flux de voix, des potentialités de l'espace et de la puissance de l'image. Même la liste, Gaspard Turin l'a montré hier, est une liste ouverte. Le post-exotisme semble étranger à l'idée d'un tarissement. En revanche, son affinité est profonde avec les figures du retour et de la réitération. Et j'emploie ce mot à dessein, au sens où les botanistes parlent de la capacité des plantes à répéter un nombre illimité de fois leur programme de développement. L'image y est l'obscur objet d'une reprise, d'une remise sur le métier ou dans une autre bouche, et cette bouche plus volubile que la première, prête à libérer plus de verbes encore, à prodiguer encore plus d'histoires. À un procès de raréfaction, à l'énergie dissipative de l'image, se sont substitués un procès d'amplification et une énergie proliférative. Impossible, comme Beckett dans Bing, de faire l'image. Bing, silence, hop, achevé. L'image post-exotique ne se laisse ni saisir, ni épuiser. Elle est plutôt erratique. Et il n'y a rien de surprenant à ce que l'image qui revient, non seulement dans « Crise au Tonkfong-Hôtel », mais dans 6 des 7 entrevoûtes du recueil, soit celle de la torche humaine, cette même image connue ailleurs sous le beau nom de flambulance. Nous connaissons même la flambulence depuis toujours, puisqu'elle hante l'œuvre en ses deux origines. Historique, si l'on s'en tient à des enfers fabuleux, et mythique, si l'on en croit le métatexte, selon lequel des anges mineurs, l'autre grand livre d'images du corpus, seraient au commencement de tout. Extrait de cet opus fantôme et matriciel. La flambulance, le déplacement dans le feu, la pétrification de la durée, la migration d'un corps à l'autre. Étirement infini, donc. Big Bang et trou noir, où les êtres sont expulsés en même temps qu'aspirés. La flambulance, image non plus dialectique, mais azimutale, viendrait sidérer le récit, en déboussoler le flux, ménager les passages entre les différents espaces diégétiques, de véritables passerelles d'une œuvre à l'autre par lesquelles nous sommes amenés non tant à progresser sur le mode syntagmatique qu'à dévisser sur une série indéfinie d'axes paradigmatiques. L'image volodinienne matérialise-t-elle le rêve des astrophysiciens lorsqu'ils parlent de trous de verre? Ou bien rejoint-elle un état moléculaire et primitif, hautement désordonné, de l'image? Cette image à l'état gazeux dont parle Deleuze à propos de Dziga Vertov, et peut-être encore mieux d'un film de George Landau, Bardo Follies, où la répétition en boucle, puis la multiplication d'une image de femme se double de la combustion lente et bullescente de la pellicule. Il se peut que ces images revenantes, traversantes, totalement accentrées, comme dans les 49 naras des anges mineurs, insinue un temps nouveau, le temps infiniment turbulent de la hantise. Nous avons quitté le temps de l'hébétude, mot que je reprends d'un texte de Georges Bataille sur Hiroshima, mais aussi d'une étude d'Adorno sur fin de partie. Nous avons quitté le temps combinatoire de l'hébétude pour entrer dans le temps panique et volatile de la hantise. Et si l'on peut parler à propos des œuvres de Volodine d'un cap au pire, on ne peut que redire qu'il est gouverné par une esthétique de la circulation, de la prolifération et de la mutation anthropique, production textuelle et producteur compris. La reprise foisonnante, exponentielle de crise au Tongfong Hotel pourrait alors apparaître comme la marque distinctive d'une posture nouvelle, le signe d'une énième transformation ou métamorphose du narrateur, et c'est bien entendu à dessein que j'évoque ici le texte de Benjamin. La crise de la narration, qui s'origine, d'après Benjamin, dans une crise de la civilisation, se conjugue ici avec un désir à tout prix, un amour fou et désespéré de l'histoire. Aucun narrateur post-exotique ne pourrait contresigner les phrases de Blanchot. Un récit, non, pas de récit, plus jamais. C'est là, je crois, le sens profond de la construction parabolique du recueil de Lutz Bassmann. Un rapport de symétrie, le disputant au rapport de successivité, le continuum du discours se voit opposé à un principe statique au moment même d'une affirmation souveraine de la nécessité et pourquoi pas de la jubilation narrative. Non pas au prétexte, cela va de soi, d'une illusoire restauration de l'intrigue ou d'une ambition panoramique du roman, mais sous les espèces d'une dépense pure, d'une activité fabuleuse et fabulatrice, proprement improductive, un potlatch. Un tel excès a-t-il une vertu conjuratoire? L'imagination serait-elle ce qui reste quand il ne reste rien? De Beckett, Volodine a-t-il quand même retenu cette injonction de tête morte? Imagination morte, imaginez. Imagination malgré tout. L'imagination mutante du post-exotisme nous apparaît donc comme le fruit d'un mariage fatal, celui de l'entropie, mot qui a été souvent utilisé ici, et de l'inertie. Et à ce jour, c'est à l'auteur des Moines soldats et des haïkus de prison, récit à la fois emporté et pétrifié d'une déportation, qu'il revient de donner la mesure de cette immense impasse. Puisque l'homme, écrivait Lévi-Strauss dans Triste Tropique, est une machine travaillant à la désagrégation d'un ordre originel et précipitant une matière puissamment organisée vers une inertie toujours plus grande et qui sera un jour définitive, il nous faut repenser le mot « anthropologie » à l'aune de cette entropie. Je voudrais donc consacrer le dernier temps de cet exposé, je m'excuse de sa longueur, à une réflexion générale sur le sens d'une entreprise devenue folle, la répétition quasi littérale dans un texte d'une de ses parties, dont le titre prend soudain un sens tout à fait nouveau. De quelle courbure de l'espace, de quel pli ou sas du temps nous arrive la petite fille araignée de crise au Dongfeng Hotel, ce moment critique où se déchaînent pour aussitôt refluer les puissances de la vie et de la mort, du recommencement et de la fin. La vision apocalyptique de Brown n'ouvre sur aucun royaume, mais il est de première importance qu'elle soit l'objet d'une double narration et que le témoignage d'humanité de Brown à ce qui n'est somme toute qu'une énième créature atrocement consolatrice, prisonnière de la même imagination romanesque, soit rapporté ironiquement sur le modèle de la variante évangélique. Le recueil a du reste bien pris soin d'annoncer, dès la première entrevoûte, le heurt de l'alpha et de l'oméga, puisque le narrateur d'un exorcisme en bord de mer se prénomme Jean, prénom bien connu de l'auteur présumé du quatrième évangile, auteur non moins présumé, énigmatique même, de l'Apocalypse, écrite officiellement au bagne de Patmos, dont on a pu penser qu'elle est une œuvre collective, composée par les disciples qui s'identifiaient à l'apôtre frappé par l'exil. Communauté, clandestinité, haute sécurité. Au fait, qui est Jean? Que sait-on de lui? Sinon qu'il héritait d'une tradition vivace des mondes juifs et orientaux où les auteurs d'Apocalypse, considérés comme subversifs par les pouvoirs, en étaient venus à pratiquer la pseudonymie comme un leurre et, sur la base d'un internationalisme de fait, je cite Jean Hadot, à développer un dispositif original de réception. Si la pseudonymie avait pour but d'égarer les enquêteurs, elle convoquait en effet des noms antiques, mais aussi prestigieux, qui non seulement apportaient aux œuvres une aura d'autorité, mais aussi, par procédé d'antédatation, une lumière troublante sur des faits écrits après coup. Déboussolement général, donc. L'ordre du temps est transgressé. On ne sait plus qui parle. On ne sait rien de Jean, de ce Jean fictif. Pourtant, on peut dire de lui qu'il figure un nouveau type d'auteur et qu'il inaugure, ou plutôt confirme, contre le quadrillage impérialiste des diktats, une ère d'ubiquité des discours dont nous ne sommes sans doute pas sortis. Il y a quelques années, Jacques Derrida disait de l'apocalyptique qu'elle peut, par son ton même, par le mélange des voix et des codes, en détraquant les destinations, démonter le contrat ou le concordat dominant. Elle est un défi à la recevabilité établie des messages et à la police de la destination. À ce titre, il ne peut y avoir aucun hasard à ce que la phrase mise en exergue à biographie comparée de Jorian Murgrave soit attribuée à Infernus Johannes, et avec de légères variations onomastiques dans Rituel du mépris et des enfers fabuleux. Un tel polymorphisme au seuil de l'œuvre signale la métamorphose continuelle d'une figure familière. Il annonce peut-être la fin de la fonction auteur, dont Michel Foucault, qui croise là la pensée de Derrida, rappelle l'ancrage idéologique, classificatoire et normatif. Il prépare enfin la venue d'un auteur proliférant, rhizomatique et coloniaire, sens végétal donc encore. Jean cristallise tous ces enjeux. Il pourrait même apparaître comme le prénom post-exotique par excellence, passe-partout mais irréfutable, le prénom d'un narrateur imprenable traversant les temps, les rêves, les images, les visions. Évangile et Apocalypse, donc. Avènement et fin. Un tel voisinage vient par ailleurs donner tout son poids au mot « crise », lequel renvoie à une sorte de fin sans fin. La crise a remplacé la fin, notait Paul Ricoeur à propos de la mutation à l'âge moderne du paradigme biblique. Je fais référence ici au deuxième tome de Temps et Récits, consacré aux métamorphoses du mythos comme agencement des faits en système, à partir de sa formulation par Aristote jusqu'au roman contemporain. Ricoeur s'appuie sur une étude de Frank Kermode qui, avant lui, s'est intéressé au modèle biblique de mise en intrigue, l'ordre triomphant du chaos, et à son modèle de composition, la Genèse et l'Apocalypse du monde coïncidant avec le début et la fin du livre. Pourtant, l'évidence s'impose. Avec le temps historique, la prédiction de la fin a changé de nature. Quand bien même le millénarisme révolutionnaire aurait traversé toute l'histoire de l'Occident, le cours matériel du temps a continuellement différé la réalisation du royaume. D'imminente, la fin est devenue immanente. Et Ricoeur ajoute, L'Apocalypse, dès lors, déplace les ressources de son imagerie sur les derniers temps pour devenir un mythe de la crise. Je cite. « La crise est devenue transition sans fin. L'impossibilité de conclure devient ainsi le symptôme de l'infirmation du paradigme lui-même. C'est dans le roman contemporain qu'on aperçoit le mieux la conjonction des deux thèmes. Déclin des paradigmes, donc fin de la fiction, et impossibilité de conclure le poème, donc ruine de la fiction de la fin. Or, que le paradigme biblique soit infirmé sans relâche ne signifie en rien qu'il soit inopérant. Il y a là un véritable credo de Ricoeur. Tout écart à la tradition, dans la mesure où c'est encore par rapport à la norme qu'elle continue d'incarner que nous devons apprécier cet écart, ne peut que laisser intacte la puissance normative de la tradition. En l'occurrence, la crise a besoin du modèle pour déployer ce qui apparaît alors non pas comme une alternative, mais comme une dérivation. Cela conduit Ricoeur à affirmer que la crise signifie encore pour nous catastrophe et rénovation. Toute crise serait nécessairement suivie d'une sortie de crise. Et dans le champ littéraire, où rôde la menace d'une mort de la fonction narrative elle-même, le salut viendrait du lecteur, sorte de garant éternel de la validité du paradigme, juge dernier des réagencements expérimentaux dus aux auteurs. L'écrivain du XXe siècle, selon Ricoeur, est celui qui défait l'œuvre, le lecteur est celui qui la refait. Une telle conclusion me paraît relever d'une mythologie quelque peu policière de la réception, mais il y a plus important pour nous qui nous interrogeons sur le traitement post-exotique du temps. À s'en tenir au statut littéraire de l'Apocalypse, Kermode et Ricoeur n'ont pu que manquer la nouveauté de la situation de l'homme d'après 45. Leur analyse se fonde pour le premier sur une minimisation et pour le second sur une occultation de la toute dernière métamorphose du paradigme apocalyptique qu'une vingtaine d'années plus tôt, Günther Anders a révélé avec force. Je traduis juste pour mémoire le texte de Kermode. Il serait puéril d'avancer, dans une discussion sur le comportement d'êtres humains ayant vécu sous menace eschatologique, que les bombes atomiques sont plus réelles que les armées du ciel, et qu'elles suscitent un sentiment de crise plus authentique. Contre cette étonnante dématérialisation d'une arme de destruction massive qui continuait de coûter la vie à des milliers de personnes et qui pullulait dans les silos planétaires, Günther Anders affirme donc que les bombes lancées sur Hiroshima et Nagasaki ont arraché les temps derniers à la sphère du mythe ou de la fiction, dans laquelle l'attente non comblée de la parousie avait fini par les reléguer. Nous n'appartenons plus au genre des mortels, mais au genre mortel. Pour éclairer cette étrange formule, il suffit de rappeler la doctrine de la destruction mutuelle assurée, dite par euphémisme, équilibre de la terreur. La fin du monde est redevenue une réalité. Dans le vocabulaire ricœurien, on dirait que l'Apocalypse est redevenue imminente, à deux différences près, mais ce sont des différences majeures, bien entendu. Premièrement, il n'est pas nécessaire d'attendre la catastrophe finale pour concevoir et pour subir les effets dévastateurs de la catastrophe. Car le propre de la bombe atomique, c'est Anders qui l'explique, ce qui fait d'elle un objet tout à fait singulier dans l'histoire de la technique, c'est qu'il n'y a pas d'armes nucléaires dont l'existence ne soit déjà en même temps une utilisation. Deuxièmement, la catastrophe ne serait pas suivie par les siècles des siècles. Le vieil espoir eschatologique, qui animait encore la dynamique révolutionnaire, ainsi qu'une plus récente métaphysique de l'histoire et du progrès, ont cédé la place à ce qu'Anders appelle « apocalypse nu » ou « apocalypse sans royaume ». Cet arrêt brutal, cet événement sans suite, qu'il nous est d'ailleurs impossible d'appeler événement, car il anéantit jusqu'au recul qui permet de penser tout événement, notre stupeur, enfin, devant ce temps sans relais, conduit Sanders à proposer un nouveau concept, le temps de la fin. Nous vivons désormais dans le temps de la fin. Ce temps n'a plus l'infini devant lui, puisque l'humanité est sous la menace d'un anéantissement total, où vient s'engouffrer le souvenir de tout temps humain. Mais ce n'est pas tout. Anders, comme Adorno, avait l'ouïe assez fine pour repérer dans les productions artistiques de l'époque les harmoniques d'une telle explosion négative. Et pour Anders, comme pour Adorno, c'est dans le théâtre de Beckett qu'elle se faisait alors le mieux entendre. Je renvoie ici à un article étonnant qui a déjà été cité d'ailleurs, étonnamment lucide, paru 2 ans après En attendant Godot, et qui s'intitule « Être sans temps ». Évidemment, SANS, où il analyse la dramaturgie de la répétition propre à cette pièce, la reprise avec variante du même acte. Nous sommes bien loin ici d'une accusation de formalisme. L'hypothèse qu'un autre temps a remplacé l'ancien, développée philosophiquement par Anders, irrigue aussi les innovations poétiques en termes d'expression de la temporalité et nous suggère surtout de ne pas réduire ces innovations à une vaine agitation schismatique, comme le fait Kermode en 1967, pour qui Beckett serait un théologien pervers, et Ricoeur à sa suite, pour qui les seules forces mises en œuvre par le roman contemporain, dans la refonte des conventions et des mesures temporelles, sont des figures du détournement à usage interne, pourrait-on dire. Ironie, parodie, dérision. Aucun cas des forces mondaines et historiques. Les écrivains ironisent en vase clos. Conséquence, la nouveauté est traitée telle qu'elle, hors contexte, comme un mouvement spontané, un tropisme obtus, une loi mécanique de l'évolution littéraire. Pour le modernisme plus nouveau, je cite Ricoeur, l'ordre est ce qui doit être dénié. Il me semble pourtant, et c'est ce que l'analyse d'Anders nous aide à comprendre, qu'aucune instance réparatrice, telle que le lecteur fantasmé par Ricoeur, n'est plus en mesure désormais de remettre sur pied la belle ordonnance du mutos. Et Arnaud Bertina nous en a apporté hier la preuve. Le paradigme, de Beckett jusqu'à Volodine, a perdu sa résilience propre. Impossible de rapporter l'aventure de Brown à une successivité rectilinéaire, encore moins mesurable. Il n'est même plus possible ici d'invoquer, comme le fait Anders à propos de Godot, l'amnésie inhérente à un temps piétinant ou stagnant. Ne pas se souvenir, du moins pour Vladimir, qui lui se souvient, signifie qu'il existe encore un passé, un présent où le recueillir et un futur où l'archiver. Or, sur quelle flèche du temps Brown évolue-t-il ? L'effet répétition du Tongfong Hotel agit sur lui comme un da capo qui serait à la fois une tabula rasa, de sorte que toute trace des faits effacés est effacée dans le temps même de leur réagencement et de leur réénonciation. Et si Brown se souvient qu'il lui faut donner à la petite fille appelée, comme une certaine confusion, araignée, le nom d'une épave, on comprend bien que ce savoir ne peut lui venir d'un passé chronologique. La fluidité du temps a changé de nature, elle est de structure laminaire. De grandes séquences stratifiées se détachant, glissant les unes sur les autres, les unes dans les autres, échangeant alors leurs matériaux, leurs grains de sable. C'est tout ce que Raphaël Baroni appelle la tensivité de l'intrigue qui se trouve mise à mal. Le temps s'enraye et s'emballe et s'empâte, en vase désormais clos. C'est sans doute là aussi un autre sens de la construction parabolique et symétrique des moines-soldats, si l'on veut bien y voir également la structure concentrique qui hante et informe l'ensemble de la fiction volodinienne et qui donne son caractère concentrationnaire au chronotope qui lui est propre. L'espace, comme le temps, est fini, ou péniblement infini, ce qui revient au même. Nous aurons beau repousser infiniment la fin, dit Anders, le temps de la fin est notre horizon définitif, et un intermède infiniment extensible, et peut-être même un filon narratif inépuisable entre deux hors-temps cosmiques. Voilà le temps humain. Zénon s'y retrouverait-il ? Intermezzo, donc, ce dernier terme que je reprends d'Anders et sur lequel je vais greffer une conclusion, nous renvoie au théâtre. On s'en souvient, Beckett a fini par condenser la fin sans fin, inaugurée par Godot, à un souffle entre deux cris, dont le sous-titre est justement Intermède. Tout en gardant à l'esprit qu'une parenthèse est toujours ouverte, quelque part, dans le temps de cet exposé, j'émettrai une dernière hypothèse. Elle m'est suggérée par les récents développements de la théorie des cordes. Notre univers se composerait non pas de 3 dimensions, mais de 10, 3 connues et 7 enroulées, cachées dans les replis subatomiques. Les quartiers de haute sécurité, où sont en train en ce moment même, dans la fiction, de tourner en rond les écrivains à qui nous devons les livres dont il est question ici, au milieu de cette campagne normande opulente, ces prisons de solitude et de ténèbres seraient contiguës aux trapés du temps que sont les rêves, les souvenirs, les images, reliées au réseau tortueux et labyrinthique d'une tuyauterie des profondeurs. Il faudrait pouvoir réentendre dans son intégralité la plongée, son rythme lancinant de tarot ou d'insectes, et se laisser envahir par l'immense architecture excavée peu à peu, gagner infiniment sur notre finitude, sur notre temps définitif, par cette parole intarissablement créatrice. Le post-exotisme donnerait-il à voir ces dimensions enroulées, enchevêtrées, telles que nous le trouvons aujourd'hui solidement enclavées, très largement déployées à travers ces différentes voies, au beau milieu de notre monde? Il est un peu à l'image de cette apparition fantastique du Tongfong Hotel, une pliure imprévue, quelque chose qui soudain se défroisse au sein de notre espace clos, une poche retournée comme un gant de notre temps sans déroulement, une parenthèse incicatrisable, un sas pour le ressassement, malgré tout, de l'espoir. Je vous remercie.
Merci pour cette communication, riche en réflexion, en éclat, voire en télescopage. Ça m'a fait penser d'ailleurs, sans vouloir ajouter mon satellite à la constellation de référence, mais ça m'a fait penser à l'aphorisme nietzschéen qui dit que l'homme retournera à la bête et qu'il n'y aura personne pour assister à cette farce. En fait, il y aurait un personnage post-exotique qui détruirait en quelque sorte le cercle. On tomberait dans le tourbillon plutôt, pour reprendre une autre image benjaminienne. Je laisserai la parole à l'auditoire. Je suis persuadé qu'il va y avoir de nombreuses questions. Il y a plusieurs échos avec... Ah, voilà, déjà, Jean-Pierre Vidal.
Puisque vous avez prononcé le mot que moi, je ne devais pas prononcer, c'est-à-dire la guérinte, j'ai entendu la guérintique.
Ah oui, à la fin.
La guérintique, oui, mais quand même. je vous poserai la question là-dessus. Vous avez analysé quand même l'araignée aussi. Hein. L'araignée, c'est Arachné et c'est Ariane.
Oui.
Donc... À la question que vous avez posée, est-ce que Zénon s'y retrouverait ? Je crois que précisément Zénon s'y retrouverait, parce que c'est ce temps-là qu'il avait imaginé. Et en plus, parce qu'il était grec, il savait très bien que le mot « crise » veut dire « décision » aussi. Hein ? C'est-à-dire qu'il y a une espèce de métalepse écrasée, si je puis dire, dans le mot « crise ». Et donc, est-ce que c'est pas dans le désécrasement de cette métalepse que doit résider la sortie ?
Je suis complètement désécrasé par.
J'ai plein d'araignées dans ma chambre.
Oui, oui.
Peut-être dans mon plafond.
Il y en a beaucoup dans la mienne aussi. Dans le mien. Oui, bon, la question était une question, en effet. Hein. Je n'y ai même pas réfléchi. C'était une sorte de. Mais en effet, on pourrait continuer, oui, à réfléchir sur la parenté, la filiation entre ces deux espaces, entre ces deux temps qui se fragmentent à l'infini.
Oui.
C'est justement que je cherche que nous soyons dans vos thèmes une échéance, et non pas de l'infini.
Dans une sorte de...
Pardon, excusez-moi,
je ne vous entends pas très bien. J'ai pas très bien entendu ce que vous avez dit.
Alors, je disais que ce qui m'avait particulièrement intéressé dans cette idée de Winter Wenders sur l'échéance, c'est le fait que nous vivons dans une échéance, oui. Parce que nous avons même si elle est vague, mais la conscience de ce cataclysme qui va nous tomber sur la tête, lui, il établit ça avec... Il relie cette condition de vie là avec l'idée d'une déresponsabilisation vis-à-vis d'autrui.
Oui.
Et est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un ressort de résistance aussi dans l'œuvre de Bellodi, parce que il y a ce soin, cette attention au soin d'autrui qui est constamment entretenu.
Oui, oui, oui. Bah, oui, en effet, la communauté ou les communautés volodyniennes, sous toutes leurs formes, sont la conjuration, je crois, de ce qu'Anders, et pas seulement Anders, mais Weber avant lui, avait décrit de la société moderne, c'est-à-dire de cette explosion, de cette pulvérisation de la responsabilité, oui, puisque les communautés ne cessent de tisser. Bon, ça, c'est toujours le même.
Anders, il fait passer cette déresponsabilisation par la désensibilisation.
Oui.
Et peut-être justement, là, dans la littérature, c'est un point de résistance.
Oui, oui.
Pierre Ouellette.
Oui, alors, tu as beaucoup évoqué, dans cette littérature Benjamin, et en particulier cette idée de possibilité d'une histoire rédimée, c'est-à-dire une
oui.
histoire qui donne voix aux vaincus. Et c'est la littérature, en particulier le post-exotisme, qui est peut-être une des possibilités de donner voix aux vaincus. Mais tu as en même temps qu'on est devant un temps sans rédemption possible. Il y a une sorte de contradiction entre cette idée qu'il est possible, bien sûr, de rédimer l'histoire, mais en même temps... pas de rédemption au sens chrétien, bien sûr,
oui.
Mais est-ce qu'il n'y a pas, dans cette idée qu'on retrouve dans le post-exotisme de la revanche, de la vengeance, des représailles, ce que j'appelle moi le vindicatif, hein, c'est-à-dire cette possibilité justement de refaire l'histoire en donnant voix à ceux qui en ont été victimes, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de voir là cette espèce d'échéance interminable hein, que Anders appelle le temps de la fin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'au-delà de la fin, on est toujours en deçà de la fin, mais pour perdurer dans cet en deçà, pour parler comme Beckett, pour que le sans fin perdure, il faut qu'il y ait la possibilité d'une rédemption minimale que la revanche, d'une certaine manière, représente. La revanche au sens volodinien du terme, hein, bien sûr, hein, je ne parle pas de ressentiment au sens nietzschéen. Quelque chose qui passe par la parole donnée aux survivants, aux vaincus, etc. C'est une forme de rédemption.
Non? Oui, oui, mais elle existe. Enfin, elle est là dans les moines soldats, je crois, mais elle est c'est un mot qu'on a utilisé souvent, elle est gauchie, elle est sans cesse gauchie, dans la mesure où, j'ai essayé de le montrer, cette figure de Natasha Dovchenko, elle est déjà condamnée, elle est d'ores et déjà condamnée. Et le contact établi avec une possible poursuite de l'humanité ailleurs, dans un temps après l'avenir, est déjà nul et non avenu. Mais elle existe comme possibilité. Elle existe comme possibilité narrative. Elle existe comme possibilité de mise en mots, de mise en narration. Et c'est pour ça que j'ai parlé de Potlatch. Parce que, on ne veut pas renoncer, on ne renonce pas à la narration, on ne renonce pas à l'imaginaire, on ne renonce pas à l'espoir, mais en connaissance de cause. C'est un peu ça que j'ai voulu faire ressortir. Alors, les deux pôles existent. La rédemption, d'un côté, oui, on y croit. Le problème, c'est que le lecteur, lorsqu'il va découvrir par un détour hasardeux, outrage amical, il se rendra compte qu'il a été floué. Mais pourtant, ça existe aussi. C'est là. C'est en même temps. C'est simultané.
Frédéric.
Ouais, c'est pour poursuivre la discussion. Je n'ai pas forcément de réponse. Mais il me semble aussi que. Pour aller dans le sens de ce que vous disiez, je pense que Golodi fait œuvre d'apocalypse prophylactique pour l'expression d'Anders. Qu'il y a quelque chose de cette tension qui demeure en permanence, effectivement.
Mais l'apocalypse.
Comme une image dialectique
oui.
De la fin et de la possibilité de l'enrayer malgré tout.
Voilà, c'est ça. Oui. L'Apocalypse a eu lieu. Enfin, si on s'en tient à l'analyse d'Anders, il n'est pas évidemment question de la prendre à la lettre, on est toujours là, mais elle a eu lieu, bon, elle a eu lieu dans, historiquement, et il faut faire avec, avec cet événement-là. Ouais.
Anne Roche.
Apprécier ton intervention et il y aurait beaucoup de questions qui pourraient sortir. Je vais peut-être bafouiller parce qu'en fait, bon, il y a beaucoup de choses qui m'ont secoué dans ce que tu as dit. Peut-être aussi dans le fait que ces indescriptibles fours que tu as cités, c'est effectivement, là aussi je te cite, une image malgré tout pour reprendre le titre.
Oui, absolument. Oui.
Et moi je trouve extrêmement remarquable la façon dont d'abord tu as fait la jonction que moi j'avais envie de faire avec Trajan Miguel, c'est le même nom qui passe de l'un à l'autre. Et surtout, j'ai beaucoup apprécié l'utilisation que tu fais du texte de Benjamin sur l'écrasite et de cette image, cette dialectique à l'arrêt qui est l'image. Et je trouve que la lecture que tu proposes des deux versions, des deux volets de Crise au tampon d'hôtel, pour moi, ça a été extraordinairement éclairant parce que c'est un texte que j'avais du mal à plier l'un sur l'autre. Et je crois que je vais beaucoup réfléchir à ce que tu as dit parce que ça m'a paru vraiment très très fort. Et par ailleurs, pour rebondir sur ce que disait Pierre à l'instant sur rédemption par rédemption, moi il me semble que là aussi c'est Benjamin qui peut nous donner une clé, une piste, parce que il y a bien effectivement dans les thèses de 1940 une idée de rédemption,
oui.
Mais il y a aussi constamment l'idée du risque et du risque que, où, je cite, même les morts ne seront pas en sécurité. Et quand on dit cette phrase, même les morts ne seront pas en sécurité, je trouve que c'est extraordinairement
volontaire. Oui,
absolument.
Merci. Merci beaucoup.
Une autre intervention, une autre remarque. On a faim, définitivement. Pardon ? Ah, oui.
C'était pas une question, c'était effectivement une remarque en forme de remerciement. Non pas sur Benjamin, mais c'était sur Ricoeur, au fond, dire que, bon là, ce qui est bien montré, c'est que toute théorie est une théorie de cas, et donc, la théorie de Ricoeur marche pour certains types d'œuvres modernes.
Oui. Hein.
Et puis après, ça ne marche plus, c'est-à-dire qu'effectivement, il reprend Kermode, donc on se retrouve avec des formules tout à fait étonnantes, sur le fait qu'on a une littérature schismatique.
Oui.
Ça veut dire une littérature schismatique à propos de Beckett. Enfin, je veux dire que voilà. Bon. Et ça rejoint la question de la possibilité de conclure, hein, évidemment, et le fait que c'est très intéressant, parce que Beckett a été cité plusieurs fois au cours de ces journées. Et là, je trouve que c'est particulièrement éclairant par rapport à Volodine, enfin, une autre histoire. Quoi, qui... Et surtout, bon, pas un paradis où le. Comme chez Ricoeur, le récit est toujours une allégorie, en fait. Le récit d'un corollaire de l'ordre.
Oui, c'est ça.
C'est une certaine... Je veux dire, c'est une poétique aristotélicienne qui vient de Chicago, quoi. Hein. Beaucoup d'éthique, là-dedans. Beaucoup d'éthique, hein.
Oui, d'où le rôle du lecteur.
Voilà,
le rôle du lecteur comme juge dernier, en fait.
C'est post-bouffe,
quoi. Merci beaucoup. On reprendra à 14h30 la suite des choses.